Merci à l'équipe de louanges. Bonjour à chacun. Mon nom est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'église. Pendant que les enfants y montent, on va juste prendre un temps, on va prier pour nos enfants, puis on va prier pour notre temps ensemble ce matin. Donc, Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ce temps qu'on passe ensemble ce matin. On te prie pour les enfants qui sont présentement en train de monter pour leur classe à la zone enfant, pour la zone ado aussi, que tu puisses toucher leur cœur ce matin, que tu puisses toucher leur cœur par ta parole, par l'enseignement de ta parole, soit avec toutes les gens qui sont à l'étage, qui prennent soin de nos enfants, de nos ados. On te prie que tu puisses vraiment les fortifier ce matin pour qu'ils puissent enseigner la parole et servir les enfants. Merci pour eux, merci pour le temps qu'ils donnent. On te prie, Seigneur, que tu puisses ajouter à cette équipe aussi. Puis je veux te prier pour que, Seigneur, ce matin, tu puisses toucher nos cœurs par ta parole et qu'on puisse être encouragés par ce que tu as à nous dire ce matin. C'est dans ton nom qu'on veut te prier. Amen. Il y a quelques années, je m'occupais de la jeunesse dans une autre église. J'étais responsable de la jeunesse dans une autre église avant de venir ici à l'église Le Sentier. Et un soir, j'étais avec les ados. Et à un moment donné dans la soirée, je leur ai dit, « Imaginez-vous si Jésus était avec nous ce soir, physiquement, là. » Parce que je sais que quelqu'un va dire, « Ben oui, il est toujours là, il est toujours avec nous, je le sais. » Mais imaginons-nous, ce soir, Jésus est là avec nous physiquement, puis on peut le voir, puis même on le voit rentrer dans la salle, puis c'est Jésus qui est là. Au moment où je partageais ça avec les ados, il y a une jeune fille qui a spontanément, puis honnêtement, sa réponse tout de suite, ça a été, « Oh, j'aimerais pas ça. » Ça serait trop troublant pour moi si Jésus se présenterait ici ce soir. Jésus, celui qui connaît tout de moi, celui qui connaît mes pensées, j'aimerais mieux pas le rencontrer. Puis je dis pas ça pour exposer cette jeune fille-là, parce que la réalité qu'on voit dans la Bible, à chaque fois que quelqu'un rencontrait Dieu, à chaque fois que quelqu'un avait cette rencontre physique-là avec Dieu, qui avait cette reconnaissance que Dieu, il était dans la présence de Dieu, à chaque fois, les personnes qui ont vécu cette expérience-là étaient convaincues qu'ils allaient mourir. Le prophète Ésaïe lui-même, dans une vision, a vu Dieu. Il croyait qu'il allait mourir. Et puis, il a fallu que les anges viennent le voir pour lui dire, « Non, Ésaïe, t'es pardonné, tu vas pas mourir. » Mais sa réaction soulève une bonne question pour nous ce matin. Est-ce que Jésus est une bonne nouvelle dans votre vie? Est-ce que Jésus est une bonne nouvelle pour nous dans notre vie aujourd'hui? Comment est-ce que toi, tu réagirais si tu apprenais que Jésus viendrait ici ce matin et que tu pourrais le voir? Peut-être que toi, tu te dis en ce moment, c'est juste ça que j'attends. Peut-être que si je pouvais le rencontrer et enfin lui parler, ça dissiperait tous mes doutes. Peut-être que tu te mettrais en ligne avec d'autres qui seraient en ligne avant toi pour lui poser beaucoup de questions parce qu'il y a bien des choses que tu ne comprends pas en ce moment. Pourquoi il accepte que certaines choses se passent? Peut-être que tu en profiterais pour lui partager ta colère, ton sentiment d'injustice, ton amertume. Peut-être que comme cette jeune fille, tu te sentirais mal, tu voudrais plus te cacher, tu aurais honte. Est-ce que Jésus est une bonne nouvelle pour toi? Est-ce qu'il est celui vers qui tu t'approches quand tu vis des difficultés? Est-ce qu'il est encore celui qui a des réponses satisfaisantes aux questions que tu te poses? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu sacrifies ton confort pour le suivre? Que tu acceptes de ne pas faire des choses pour suivre Jésus? C'est quand même des questions qu'on se pose. Mais en tout cas, moi, c'est des questions que je me pose. Est-ce que Jésus est une bonne nouvelle pour toi ce matin? Une question si simple, mais je sais que c'est pas simple pour plusieurs d'entre nous. D'ailleurs, cette question-là n'était pas simple pour les églises lorsqu'ils ont reçu le livre de l'Apocalypse. En effet, quand Jean, l'auteur, écrit le livre de l'Apocalypse, quand il va donner ce livre-là, quand il va partager ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, l'Église était prise avec la persécution. Jean lui-même va se présenter comme le compagnon des chrétiens dans la persécution, dans des moments difficiles. Le livre de l'Apocalypse a été écrit à un moment donné où l'Église était en train de souffrir. Et Dieu a donné cette vision, ce livre-là, pour dire « ça vaut la peine ce que vous vivez. Persévérez. » C'est un livre qui a été donné à des gens qui se posaient des questions, les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine que je continue? Est-ce que je ne devrais pas retourner à ma vie d'avant? Est-ce que peut-être ce serait le temps d'arrêter de parler de Jésus? Parce qu'en ce moment, tout ce que je vois, c'est que ça me donne du trouble. Et c'est là que ce livre a été donné à l'Église. Les chrétiens de l'époque faisaient face à cette question. Est-ce que Jésus est une si bonne nouvelle pour nous? Est-ce que ça vaut la peine de persévérer dans notre obéissance? Des vieilles questions qui sont encore actuelles aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, on va regarder ensemble dans notre nouvelle série qu'on a nommée « Dévoilement ». Comment Jésus nous encourage à persévérer dans notre foi. Dans les trois premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, Jean s'adresse à sept églises auxquelles il va adresser des encouragements et des avertissements. Il va essentiellement les encourager à persévérer malgré les difficultés. Il va les avertir des conséquences de ne pas persévérer. Et ce qui est vraiment particulier avec le livre de l'Apocalypse, bien, c'est le dernier livre de la Bible. Bien qu'on peut lire partout dans la Bible cet encouragement à persévérer, bien que la Bible nous informe richement sur le fondement de notre espérance et sur l'objet de notre foi qui nous permet de persévérer, l'Apocalypse fait quelque chose de plus pour nous. Fait quelque chose de plus pour nous encourager à persévérer. L'Apocalypse nous dévoile la fin de l'histoire. L'Apocalypse nous dévoile la fin de l'histoire. Ce matin, on va regarder ensemble, on ne regardera pas ensemble la première des sept églises, on va commencer ça la semaine prochaine, mais on va regarder ensemble comment Jésus nous dévoile la fin de l'histoire et comment ce dévoilement nous pousse à persévérer dans notre adoration. Persévérer dans notre adoration de Jésus dès maintenant. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble. On va lire ensemble ce matin des versets dans le chapitre 1 de la Genèse. Et on va commencer par les trois premiers versets. Apocalypse, Genèse, j'ai dit Genèse. Je parle toujours de la Genèse dans mes messages, puis j'allais pas le faire un matin. Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Et garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Puis ce que l'Apocalypse fait, c'est qu'il nous dévoile la fin de l'histoire. Jean reçoit une révélation, la révélation de Jésus-Christ. Jésus va se révéler à lui, va lui donner un message, puis maintenant, il faut que tu racontes ça aux églises, à l'église. Voici ce qui va arriver bientôt. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que la fin arrive bientôt et que tout ça a été annoncé dans la Bible. Tout ce qui a été annoncé dans la Bible concernant le retour de Jésus, que Jésus va régner pour toujours, ça va arriver bientôt. Et puis, dans l'Apocalypse, en fait, c'est le livre du Nouveau Testament qui fait le plus référence à l'Ancien Testament. Certains disent 400 fois, certains disent 600 fois, c'est pas clair parce que c'est pas toujours des citations, c'est des concepts, c'est des trucs de l'Ancien Testament, mais entre 400 et 600 mentions de l'Ancien Testament dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse veut nous dire tout ce qui a été annoncé, Ça commence à arriver, puis ça va. Il y a des choses qui sont arrivées, puis là, les choses de la fin commencent à arriver, puis ça va se passer. C'était la réalité, c'était vrai. Tout ce qui a été annoncé, c'était vrai. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Ici, ce matin, il y a quelques allusions à l'Ancien Testament, dont une ici dans Daniel 2, 28, qui dit « Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Voici ce qui arrivera dans l'avenir. » Ici, Jean dit « Voici ce qui doit arriver bientôt. » L'avenir est comme arrivé. Voici les choses qui vont arriver bientôt. Et qu'est-ce qu'il veut nous révéler? Bien, c'est la fin de l'histoire. Comment ça va se terminer? Quand on lit ce qui doit arriver bientôt, quand on lit cet empressement-là que les choses de la fin arrivent, eh bien, on est en train de dire, pas « je suis en train de te dire quand est-ce que ça va se terminer ou quand est-ce que ça va arriver, mais voici les choses commencent à se passer. » Voici les choses de la fin qui... On est comme dans cette nouvelle, dans cette ère-là où les choses commencent à arriver. Voici ce qui arrive. Donc peut-être que tu entends ça ce matin puis tu vas dire, mais pourtant je suis encore en train de souffrir ou ça fait 2000 ans que Jean a écrit cela. Mais malgré ça, il a dit, voici les choses qui vont arriver bientôt, les choses qui commencent à se produire. Le moment où ces choses commence à se produire. Il veut que, ce que Jean veut, c'est que les chrétiens reçoivent cette lettre et le voient comme un message de persévérance. Parce que ce qui s'en vient vaut la peine de vivre ce qu'on vit maintenant. Ce qui s'en vient nous dit, ça vaut la peine que j'attende. Ça vaut la peine que je vive, dans leur cas, la persécution que je suis en train de vivre. Et c'est comme ça qu'il va débuter cette lettre. Avant de donner le contenu de sa révélation, il va nous assurer « Ceux qui écoutent et qui gardent les paroles qu'il entend seront heureux. » Heureux ceux qui lient, celui qui lit, ceux qui écoutent les paroles et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Jean nous assure que de garder les paroles de Dieu, donc d'entendre et de garder, d'obéir aux paroles que Dieu nous donne, eh bien, Jean appelle ces personnes-là des personnes heureuses. Vous êtes heureux si vous gardez ces paroles. Jean nous révèle dès le début que la révélation de Jésus nous a été donnée afin qu'on soit bénis en recevant une perspective céleste sur ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il va faire. Ce que Jean va faire, c'est qu'il va nous donner, et c'est le type de lettre qui a été écrite, une lettre apocalyptique, une révélation. C'est pour qu'on puisse avoir une perspective qui est comme à l'extérieur de nous, qui est plus grande que nous de ce qui va se passer. C'est comme si on était élevé de notre situation présente pour un instant, pour voir d'un point de vue beaucoup plus grand, beaucoup plus clair ce que Dieu est en train de faire. C'est comme si Dieu te sortait de ta situation pour un instant, de tes difficultés, pour que tu puisses avoir une perspective plus grande de ce qui est en train de se passer. Puis d'être capable de dire, « Ah, OK, c'est ça qui se passe, c'est bon, je peux continuer. Je crois en toi, je crois, tu as raison, Seigneur, je vais m'attacher à toi. » Dieu est encore à l'œuvre, parce que ce que Jean est en train de faire, c'est qu'il nous montre va nous montrer que Dieu est à l'œuvre, que Dieu, ses promesses sont en train de s'accomplir. Puis c'est pas parce que tu vis une situation difficile, c'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas à l'œuvre, même présentement dans ta vie. Peut-être que présentement, j'ai mon nez collé sur l'arbre et je vois ma situation, mais ce qu'il est en train de faire ici, c'est de nous sortir de l'arbre et qu'on puisse voir la forêt tout entière. J'ai mon nez collé sur l'arbre, payer les comptes, gérer des relations difficiles, ne pas savoir ce qui m'attend dans le futur, ne plus savoir ce que je crois. J'ai le nez collé sur l'arbre et Dieu me prend pour me montrer la forêt. La vie éternelle, le triomphe de Dieu, la grandeur de son amour pour moi. Voici ce qu'il veut nous montrer. pour qu'on puisse se dire, OK, on continue. Donc, Jean affirme que ceux qui entendent et qui gardent ses paroles vont être heureux. Et par la suite, il va nous rappeler qui on est et ce qu'on a reçu. Et on va continuer à lire ensemble à partir du verset 4. De la part de Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc ici, dans cette salutation, parce que Jean est en train de saluer les gens, puis il leur dit de qui vient ces salutations-là. Il les salue de la part de Dieu, de la part des sept esprits, de la part de Jésus, de la part de lui-même, de la part de Jean. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il nous rappelle qui on est, mais avant de nous rappeler qui on est, et on va voir ça ensemble, il va nous dire aussi qui est Dieu. Et ce que Jean va faire, c'est qu'il va nous dire qu'on a tout ce qu'on a besoin pour persévérer. On connaît Dieu, on sait ce qu'il nous a donné, on sait qui on est. On a tout ce qu'on a besoin pour persévérer. Tout d'abord, l'identité de Dieu. Dans ce passage, Dieu se présente comme celui qui est, qui était et qui vient. L'alpha et l'oméga, le début et la fin. Celui qui a existé dès le début, qui existait même avant et encore qui est encore là à la fin. Et ça, c'était une phrase que les gens pouvaient reconnaître. C'était une expression. Une expression qui affirme que le Dieu dont on parle, parce que certains dans le monde grec disaient, par exemple, « Zeus était, Zeus est, Zeus sera ». Quand on utilisait cette phrase, c'était pour dire le Dieu qu'on est en train de révérer en ce moment, c'est le roi des rois, c'est le Tout-Puissant, c'est lui qui a la force d'accomplir des grandes choses. C'est lui qui est digne de toute confiance. Parce qu'elle nous présente un Dieu qui était là dès le commencement et qui a jamais personne dans l'histoire et jusqu'à la fin qui ont su le vaincre pour prendre sa place. À la fin de l'histoire, c'est encore lui qui est debout, c'est encore lui qui règne. Et l'histoire qu'il nous a révélée dans sa parole est en train de s'accomplir. Donc, celui qui est, qui était, qui est et qui sera. C'est une expression de supériorité ultime. Pour les lecteurs, ce genre d'expression, c'était un gage de « je peux lui faire confiance ». Pour nous ce matin, c'est « je peux lui faire confiance ». Si je crois qu'il était, qu'il est et qu'il sera, c'est lui qui est digne de toute ma confiance. C'est un rappel qu'il est digne de notre confiance. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, on doit l'écouter. On peut lui faire confiance parce que à la fin, c'est lui qui se tient debout victorieux. Donc Dieu est notre confiance et par la suite, on voit que l'Esprit est notre force. Ici, Jean parle des sept esprits qui s'adressent aux... Il parle des sept églises, il va parler ici ensuite des sept esprits. De la part des sept esprits qui sont devant son trône. Donc, ces sept esprits, en réalité, c'est comme une métaphore pour parler de l'aide de Dieu, de l'Esprit qui est en train d'aider les églises. Il va s'adresser à sept églises et ces sept églises-là reçoivent l'aide de Dieu, la participation de Dieu dans leur œuvre. Dieu est en train de leur dire, vous n'êtes pas seuls. Vous n'avez même pas à vous appuyer sur vos propres forces parce que l'Esprit de Dieu est avec vous et il prend soin de vous. Et cette notion-là de ces sept esprits qu'on voit qui sont en train de prendre soin de cette église, c'est un rappel que Dieu est en train de prendre soin de notre église en ce moment. Dieu prend soin de nous personnellement, mais Dieu est un Dieu qui prend soin de l'Église aussi. C'est un Dieu personnel qui veut vraiment prendre soin de nous, puis on peut se fier dans sa force. Donc, Dieu est notre confiance, l'Esprit est notre force et Jésus est notre salut. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la domination, au siècle des siècles. Amen. Jésus est celui qui est mort pour qu'on puisse avoir la vie. Ici Jean nous révèle la fin de l'histoire, cette réalité où on va pouvoir passer l'éternité avec Dieu. Et puis ici, Jean nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. C'est lui qui nous a lavé de nos péchés. C'est lui qui nous permet d'avoir confiance qu'on peut avoir accès à Dieu et qu'on peut prendre part à la vie avec Dieu pour toujours. C'est ce qui nous rend capable de regarder la forêt, ce qui s'en vient avec confiance, parce que quand je regarde ce que Dieu annonce dans le futur, quand que Jésus est mort pour mes péchés, Jésus est mort pour moi, eh bien, j'ai tout ce que j'ai besoin pour pouvoir avoir cette relation-là avec Dieu puis passer l'éternité avec lui. Et c'est d'ailleurs un avertissement que Jean va même donner aux églises. Si on ne poursuit pas cet amour-là, si on ne poursuit pas cette réalité-là que Dieu est mort pour nos péchés, si on n'accepte pas que Jésus est celui qui a donné sa vie pour nous, eh bien, on ne peut pas vivre cette vie-là avec Dieu pour toujours. Mais quand Jésus est notre sauveur, on a cette assurance, cette joie, ce rappel constant dans nos vies que, hey, il y a une bonne nouvelle pour moi aujourd'hui, mais il y a une bonne nouvelle pour moi pour toujours. C'est ce qui permet que la perspective de la forêt, de l'éternité, devienne une bonne nouvelle pour nous. Je sais pas si ça vous arrive parfois. Moi, je suis une personne distraite. Fait que des fois, je suis dans une situation, je pense à d'autres choses. Je sais pas si ça vous arrive, mais des fois, c'est un peu malaisant quand la situation, elle est sérieuse, puis que là, tu te mets à rire. Ou que tu te penses à quelque chose qui était drôle, que tu te rappelles, puis là, tu fais un sourire. Puis, mais ça, c'est quelque chose que, quand on pense à Jésus, grâce à Jésus, on a toujours quelque chose comme ça qu'on peut sourire, que peu importe les circonstances, peu importe la situation difficile, relation difficile, peut-être qu'il y a quelque chose cette semaine qui t'attend, puis t'es stressé, puis t'as peur, puis ça te tente pas. Il y a toujours un moment où tu peux être distrait, puis t'as une raison pour sourire. T'as une raison pour dire « Oups, désolé, j'étais distrait. » Dans ma situation, j'étais juste en train de penser au fait que à quel point j'étais perdu sans Dieu et que Jésus a gracieusement donné sa vie pour que je puisse avoir la vie avec lui. Il a gracieusement donné sa vie pour que je puisse être pardonné puis avoir la vie avec lui. En plus, il revient bientôt. C'est ce que le verset va nous dire, le verset 7. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. C'est cette journée-là où est-ce qu'un jour Jésus va revenir et tout le monde va reconnaître qu'il est le Sauveur, qu'il est le Roi de la terre. Et c'est ce moment-là qui peut, quand on est devant Jésus ou quand on est dans une situation difficile, en Jésus nous rappeler, « Hey, moi j'ai ça, je peux me réjouir en lui. » Jésus est l'objet de notre foi et le fondement de notre espérance. La vision que Jean nous partage et qu'il va nous partager à partir de maintenant amplifie cette réalité-là, amplifie considérablement la réalité de notre foi et de notre espérance. Parce que ce qu'il voit confirme qu'on peut mettre notre confiance dans la suprématie de Dieu, dans la force de son esprit et dans l'œuvre de Jésus. Et on va lire ensemble à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise sans voix. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et à deux tranchants, et son visage était comme le soleil. Lorsqu'il brillait dans toute sa force, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posait alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. » J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. Ensuite, quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc, bien que toute la Bible nous parle du fondement de notre espérance, bien que toute la Bible nous parle de l'objet de notre foi qui est Jésus, de cet appel à persévérer, ici, Jean nous offre une vision incroyable. En fait, c'est Jésus qui nous offre cette vision incroyable. Il nous montre la vision de Jésus qui a vaincu la mort, qui est ressuscité et qui règne sur toute chose. Quand Jean a vu Jésus, et c'est vraiment intéressant quand on considère que Jean, c'était un des disciples de Jésus, le disciple que Jésus aima, un des disciples qui était proche de Jésus. Et quand il a vu Jésus, tout d'un coup, il a été tellement impressionné par la grandeur et par la gloire de ce Jésus-là qu'il est tombé encore comme toutes les autres personnes qui ont vu Dieu dans l'Ancien Testament, comme il pensait qu'il allait mourir, devant la grandeur et la sainteté de Dieu. Parce que cette vision et cette image de ce Jésus glorifié, de ce Jésus qui règne sur toutes choses et pour toujours, c'est la première vision de Jésus qu'on a comme si on était de l'autre côté de l'éternité. Comme si, il nous dévoile la fin de l'histoire. Oui, on a vu Jésus mourir. Oui, on a vu Jésus ressuscité. Jésus est monté au ciel. Mais là, on voit Jésus dans toute sa gloire, qui est présenté comme le juste juge qui va juger les nations, qui va accueillir ceux qui ont cru en lui puis qui va rejeter ceux qui l'ont rejeté. On voit ce prêtre qui, avec sa longue robe puis ses longs cheveux blancs qui sont purs, qui est là puis qui intercède en notre faveur, qui veut prendre soin de nous et qui veut connecter avec nous pour qu'on puisse être en relation avec Dieu. On voit ce règne, ce roi qui règne sur toute chose. Cette image qui nous dit Jésus est vivant et Jésus règne. Et c'est bien souvent ce qu'on a besoin de se rappeler dans nos circonstances. Jésus est vivant et Jésus règne. Et tu sais, quand on réalise ça, quand on reconnaît que Jésus est vivant et que Jésus règne, eh bien, on peut peut-être à première vue être comme Jean puis dire « Wow, c'est tellement impressionnant que moi, je ne peux pas être dans la présence d'un Dieu aussi grand. » Mais c'est vraiment beau et intéressant, de, encore une fois, Jésus qui vient vers lui et qui dit « N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que j'étais mort, maintenant je suis vivant. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai tout fait ce que j'avais besoin de faire pour que tu puisses être dans ma présence présentement. » Mais n'aie pas peur, c'est aussi un message qu'on peut entendre aujourd'hui et que certainement les premiers chrétiens pouvaient entendre. N'aie pas peur. Dans ta situation présentement, je suis avec toi. Reste attaché à Dieu, à sa parole. Heureux ceux qui mettent en pratique sa parole maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce qui va vous arriver parce que si je règne ici, vous allez régner avec moi. N'aie pas peur. Parce que si je suis vivant, il n'y a rien qui va t'empêcher, qui va pouvoir t'empêcher de vivre pour l'éternité avec moi. Ce que tu vis présentement, aussi difficile puis aussi souffrant que ça puisse être, c'est une infime partie de l'éternité que tu vas passer avec ce Jésus-là. Et c'est ce qu'il veut qu'on sache ce matin, qu'on puisse persévérer ensemble. D'ailleurs, dans sa vision, quand il va parler des sept chandeliers, il va dire que ça représente les sept églises. C'est vraiment une belle image de l'Église et de notre place avec Dieu. Parce que les sept chandeliers, les chandeliers dans l'Ancien Testament, c'était un outil, c'était quelque chose qu'il y avait dans le temple. Ça allait dans le temple. Et on peut lire même dans Zacharie au chapitre 4, je ne vais pas le lire, mais si vous voulez aller le voir ce matin, quand les chandeliers sont allumés. C'est un rappel à ne pas vivre par nos forces, par notre puissance, mais par la puissance de l'Esprit. Quand les chandeliers sont ouverts dans le temple, c'est une image que c'est Dieu qui fait brûler les chandelles, le chandelier. C'est Dieu qui est la source de la flamme et qui aussi, ce que les gens voient, c'est que les gens voient Dieu. Le chandelier dans le temple était... représentait la présence de Dieu. Et là, ce que Jean est en train de nous dire, mais maintenant, l'Église, c'est vous, ici sur terre, qui représentez la présence de Dieu. Mais ça, c'est poussé par la puissance de l'Esprit. Vous n'êtes pas toute seule. Je suis avec vous. L'Église, vous avez ce témoignage-là que vous représentez Jésus. Quand les gens viennent à l'Église, ils devraient voir Jésus. Au travers des relations, au travers de l'enseignement de la parole, au travers de la vie de l'Église. Mais c'est aussi un encouragement que Jean est en train de nous dire, « Je suis avec vous parce que c'est moi qui fais brûler la flamme. C'est l'Esprit qui fait brûler cette flamme. C'est Dieu qui fait briller notre lampe. » Donc Jésus prend soin de son Église. Jésus prend soin de nous puis on peut avancer avec confiance. Que ces paroles puissent résonner dans notre esprit, même cette semaine, de se rappeler Jésus qui nous dit « N'aie pas peur. N'aie pas peur. » Celui qui, et je n'ai pas expliqué, mais cette épée dans la bouche est un peu bizarre. J'ai demandé à ChatGPT de générer une image avec les descriptions dans Apocalypse 1. C'est vraiment intéressant. Mais cette idée de cette image, cette épée dans la bouche, c'est cette idée que Jésus est le juge qui va juger les nations. Mais c'est aussi ce juge qui dit, puisqu'il est mort pour nous à la croix, puisqu'il a donné sa vie pour nous, qui dit, n'aie pas peur. Il est avec nous pour toujours, pour prendre soin de nous. Je demandais à l'équipe de louange de venir ici ce matin avec moi. N'aie pas peur, il est avec toi. Jésus se dévoile pour qu'on puisse persévérer dans l'obéissance. Jésus se dévoile à nous pour qu'on puisse persévérer dans l'obéissance. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller dans la prière ensemble. Et si tu vis des difficultés, si tu as des moments de doute, si tu as des moments de souffrance, j'aimerais prier pour toi ce matin pour que tu puisses te rappeler ces paroles de Jésus, celui qui est vivant et qui règne et qui va régner pour toujours, qui te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi présentement. Donc, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci la richesse de ta parole et merci pour ce texte que tu nous donnes ce matin qui nous dévoile qui tu es. En fait, qui nous dévoile que tu as gagné, Seigneur, et que tu vas régner pour l'éternité. Tu nous appelles, Seigneur, à régner avec toi, à faire connaître ton nom. Tu nous appelles, Seigneur, à garder courage, à persévérer en toi. Dans les moments de doute, tu nous appelles à nous tourner vers toi pour trouver de la vérité. Parce que tu es la vérité, le chemin et la vie. Et ici, Seigneur, dans Apocalypse 1, tu te dévoiles comme la vérité qui est vivant et qui règne pour toujours. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse se tourner vers toi quand ça ne fait pas de sens, quand on ne comprend pas ce qui se passe. Puis qu'on puisse entendre ces paroles, n'aie pas peur. Puis se rappeler que tu es avec nous. Tu es avec nous, Seigneur. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous qu'on puisse te voir un petit peu plus à chaque jour et se réjouir de ta présence dans nos vies. Parce que oui, Seigneur, si tu viens ici, tu peux être une bonne nouvelle pour nous si on te voit ce matin. Parce que tu as tout fait pour qu'on puisse avoir accès à ta présence. On a seulement à recevoir ton amour, à accepter que tu es mort pour nous. On a seulement à accepter que c'est toi qui as payé le prix à notre place. Tu es mort de la mort que je méritais, Seigneur, pour que je puisse vivre avec toi pour toujours. Gloire à ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Et je te prie que ça puisse être une réalité pour chacun d'entre nous ici. On puisse être encouragé par ses paroles. N'aie pas peur, persévère. Je suis avec toi. Je prends soin de toi. C'est dans ton nom que je te prie, Seigneur. Amen.